invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, tour de piste est sur Principe Actif.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Tour de Piste qui ouvre ce soir la 10e saison déjà. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute et votre fidélité, vos encouragements et vos marques de gratitude. Pendant l'heure qu'on va passer ensemble sur les ondes de Principe Actif, on parlera du festival Rock in the Barn. Il soufflera les 9 et 10 septembre sa 13e bougie à la ferme Bionval avec Saint-Surepte, c'est dans l'heure en Normandie. À cette occasion, j'ai de nouveau le plaisir de recevoir Martin Carrière, à la fois organisateur et programmateur de l'événement et par ailleurs musicien au sein du groupe You Said Strange. Bonsoir Martin et merci d'être à mes côtés.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Alors en marge des grosses manifestations qui subissent trop souvent la dictature des standards, on en parlera en cours d'émission, tu nous as comme à chaque fois confectionné une programmation exigeante et variée. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette nouvelle édition de Rock in the Barn ?
Et bah 28 groupes, formations et DJ et projets solo qui viennent un peu partout dans le monde, et on a de la folk de Brooklyn, on a de la cold wave de Berlin, on a du post-punk de Manchester, on a des groupes locaux aussi et puis divers autres choses. Voilà, on a un folkman du fin fond de l'Arizona et qui vient de l'Arizona et de l'Oregon aussi. Voilà, on a plein de choses.
Et du coup, tu définirais la ligne programmatique du festival comment ?
Musique assez indépendante toujours dans la découverte, mais pas trop, avec des choses aussi qui viennent, comme quelqu'un comme Guts qui est très connu.
Qui est très connu, voilà. Qui a un gros CV. Hein.
Voilà, qui a un gros CV, mais qui vient quand même en découverte puisqu'il vient faire que du DJ set, il passe que des disques, il va pas passer ses morceaux à lui. C'est ce qu'il avait, il avait fait un espèce de manifeste sur sa page Facebook en disant qu'il en avait marre de jouer sur les grandes scènes et dans les grandes salles et que les gens attendaient ses morceaux et en fait, ce qu'il veut, c'est partager les morceaux, des nouvelles choses avec les gens autour de lui. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Facebook, sur Messenger, comme ça je lui ai dit bah écoute, nous on te fait si tu veux on te fait une scène, un dôme en bois exprès pour toi et les gens viennent autour de toi et seront au plus proche de toi et il a dit ok, je suis trop chaud.
Il y a eu souvent des artistes comme ça de grande renommée qui ont fait des grosses salles et qui sont très heureux, qui ont été très heureux de revenir à Rock in the Barn pour trouver un rapport de proximité, d'autres
ouais.
conditions d'accueil,
ouais, en 2019 il y a eu Flavien Berger. Ça faisait des années qu'on voulait l'avoir et c'était très touchant parce que il savait que ça faisait longtemps et il est venu et il savait que j'étais très fan aussi et parfois tu as ce rôle de programmateur où tu te dois d'être assez distant parce que c'est normal, tu vois, tu peux pas être derrière les artistes, être fan de tout et voilà, tu vois.
Mais donc faut se détacher du côté fan, quoi.
Exactement, complètement, et c'est normal de le faire. Et avec Flavien Berger autant c'est un peu plus compliqué et il le savait, il est venu me voir même si j'ai pas osé aller le voir et il est venu me voir, il m'a dit bon, c'est un peu spécial quand même ce soir, bon déjà c'est les 10 ans du festival. Et c'était en 2019. Et puis il me dit, est-ce qu'il y a un morceau qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu voudrais, quoi. Et je lui ai dit, bah déjà j'ai pas compris. Enfin j'étais comme un con. Et il m'a dit, et je lui ai dit, bah écoute, moi je t'ai découvert sur Les Vélis Planchistes. C'est un morceau que t'as sorti en 2014. Et tu l'as jamais joué en live. Je t'ai jamais vu la jouer. Moi je t'ai vu 4 fois en concert. Et il m'a dit, je vais peut-être essayer un truc. Et il dit, peut-être, je vais essayer. Et il l'a fait. Et alors que ça faisait des années qu'il l'avait pas joué. Et ce qui est fou, c'est que 2 mois après, il joue au Casino de Paris. Et il a ouvert son concert avec ce morceau-là. C'est fou. Alors qu'il l'avait pas joué depuis des années.
Et alors, pour celles et ceux qui connaissent pas ce festival, on pourrait parler comme ça très brièvement du site et de l'ambiance qui y règne.
Eh bien, champêtre.
Champêtre.
on est au creux d'une vallée, dans le Vexin normand, entre des champs et des forêts. Et donc c'est une ferme du 17e qui est classée et qui est un très bel endroit et dans lequel on installe une scène à l'intérieur de la cour et puis on installe également une scène dans la grange. En 2020, ça n'avait pas été le cas puisqu'il y avait le Covid, donc on n'a pas mis de scène dans la grange. Mais là, on revient dans la grange et qui est très importante à nos yeux, évidemment. C'est Rock in the Barn, hein, rock dans la grange. Et donc une scène dans une grange, une scène dans le corps de ferme. Et puis on investit aussi les prairies alentours qui sont autour du du festival, les zones d'herbe et autour de la ferme, et dans lesquelles on met cette CNC, ce fameux dôme pour Guts, et puis avec des partenaires, des stands, des jeux, des ateliers, de la friperie, des tatoueurs, voilà, des disquaires aussi.
Alors je te propose qu'on ouvre la programmation avec le groupe Inguana Death Cult, le titre Nature Calls. Est-ce que tu veux nous dire 2-3 petits mots sur ce groupe?
Eh ben, je les ai jamais vus en live. Ça faisait un moment que je voulais les voir, et puis je me suis dit allez, je les verrai pour la première fois au festival. Groupe de Amsterdam, mi garage, mi un peu punk parfois dans le chant. Il y a un côté aussi parquet court, hein, ça c'est sûr dans le chant.
Oui, quand j'ai écouté, j'ai tout de suite pensé à parquet court.
Définitivement. Et grosse énergie apparemment sur scène. Et moi, je suis très fan, j'ai beaucoup écouté. Et voilà, je suis très heureux de les avoir au festival. Ouais.
S'appelle Inguana Death Cult, effectivement très parquet court, il sera programmé au festival Rock in the Barn le samedi 10 septembre.
Oui, c'est ça.
Avec Saint-Suireft, donc dans le département de l'Eure.
Et ce sera dans la grange.
Et ce sera dans la grange.
Ce sera pas en plein air. Donc ça va vraiment être bien.
T'as souvent l'occasion de voir les groupes sur scène avant de les programmer?
Ça dépend. Il y en a oui, il y en a non, c'est une réponse très normande. Il y en a que je vais je sais que j'ai pas besoin d'aller voir, tu vois, je sais que je peux y aller les yeux fermés, genre Iguana Death Cult pareil, complètement. Et puis après il y a des groupes après où il y a même des groupes que je découvre complètement en live. C'est le cas de Scuffles, par exemple, qui est un groupe un peu... c'est en français, c'est mi-cold wave, mi-post-punk, mi... c'est très 80s, c'est vraiment très 80s, un peu... très boîte à rythme, clavier, chant un peu hurlé, tu vois. Mais toujours... Enfin, pas hurlé, mais un peu... harangant, tu vois ce truc. Et... harangué et bref voilà, moi j'ai découvert ça à Bar en Trance, ce groupe là dans au Tiana, dans un tout petit bar. On était 100 là-dedans alors que la jauge était à 60.
Vous étiez en surjauge.
On était à 150.
La bonne taille pour une salle, c'est quand il y a trop de monde.
Voilà, exactement. Et c'était incroyable, et en fait il y a eu une espèce de ferveur à ce moment-là, et j'ai dit mais ça faut absolument que ça vienne au festival, tu vois. Et donc ça dépend, il y a des trucs j'ai besoin d'aller voir en live, il y en a où j'ai complètement confiance, et puis ça c'est voilà, il n'y a pas de règle.
Il y a des gens avec qui tu travailles particulièrement, enfin des réseaux que tu observes plus particulièrement, des festivals où tu vas chercher tes groupes. On parlait tout à l'heure des bars en trans ou des trans musicales de Rennes,
oui,
des agents
sûr.
De groupes ou des trans, labels ou des boîtes de production que tu...
Bar en trans et trans musicales, c'est sûr que j'y vais. Enfin, oui. Dans tous les cas, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. J'avoue que sur ma programmation cette année, il y a beaucoup de groupes qui étaient au trans. Guadalteras était au trans, Commodrag and the Moonodor était au trans, Scuffles était à bar en trans, Miss France était à bar en trans. Voilà, c'est sûr que...
C'est un festival qui donne le ton. Hein.
Ouais, c'est vrai que ça donne un peu le ton, effectivement. Après, Miss France, je les connaissais, on avait joué avec eux, avec Youssef Strange déjà. Les Guadalteras, on n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'avant qu'ils passent au trans, ils avaient déjà joué à Rock in the Barn. Hey. c'était en 2016. Et avant que ce soit le groupe qu'ils sont maintenant. Mais voilà, enfin bref, en tout cas, il y a tout ça pour dire qu'il n'y a pas de règles.
Alors, toutes celles et ceux qui programment en festival ou pendant toute la saison en salle ont droit à cette question. Quels sont pour toi les critères d'une bonne programmation?
Oula.
C'est une question vaste.
Une bonne programmation, c'est celle qui arrive à déjà fédérer différents types de publics. Pas le même public, essayer d'arriver à choper du public local, du public des grandes villes, mais du public aussi peut-être international. Nous c'est un peu le cas, hein. On a un petit peu d'anglais qui viennent, un peu de hollandais aussi. Je le vois sur les statistiques de billetterie en ligne. Donc voilà, qui essaie de ratisser un peu large, mais en même temps dans une certaine spécificité. je sais pas si c'est très clair.
Enfin, pour moi en tout cas,
ouais,
c'est clair.
Ça l'est. Je dirais ça. Et puis ensuite, c'est celle qui mixe le fait de s'adapter aussi à un public qui s'est fidélisé au festival, tout en restant cohérent avec ses choix, avec ses goûts, mais sans que les goûts prennent trop le dessus. C'est vraiment une espèce de melting pot. Enfin, pas melting pot, pardon. Une espèce d'arrangement entre ses goûts personnels et ce que aussi ce à quoi le festival aspire, parce que le public s'est attaché à un type de programmation depuis 2015. Les gens se sont vraiment attachés à un type de programmation auquel il faut essayer de rester fidèle, mais en proposant aussi des nouvelles choses. C'est une certaine gymnastique quand même, parce que faut aussi programmer du local, faut faire venir les gens tôt, il faut garder les gens jusque tard le soir. Donc c'est une gymnastique assez certaine en fonction du lieu aussi, parce que un lieu ne se programme pas de la même manière. Tu vois, je te parlais de la Grange, ça se programme pas à tel type d'heure, ça se programme pas pareil que la grande scène. Je sais que les Warlocks ça a été complètement impromptu, mais en 2015 les Warlocks devaient jouer sur la grande scène à 20h, ils étaient en retard, ils arrivaient de Paris pourtant, hein, tu vois. Ils étaient en retard ces cons-là, et ils ont réussi à être en retard depuis Paris, et on a dû décaler le groupe qui jouait dans la Grange, qui était Cheap Wine, le groupe qui organise le Celebration Days, festival en Picardie, et donc très 70s, très 60s, 70s, très Santana, très grandiloquent, etc. Et au final, on les a mis sur la grande scène, et les Warlocks dans la Grange, et au final, c'était beaucoup mieux. Et c'était parfait, en fait. C'est-à-dire que les Chipwine ont complètement investi la grande scène et c'était parfait pour eux. Alors que les Warlocks, très introvertis dans leur manière d'être et dans leur jeu, tu vois, c'est très, très introverti, mais en même temps, le son tellement fort et tellement vénère. Je sais pas, il s'est passé un truc dans la grange, on a fait trembler les murs, c'était incroyable. Donc parfois, il y a des choses, il y a du hasard qui arrive aussi qui rend la prog encore plus belle.
Et puis qui te fait dire en tant que programmateur aussi, bah finalement... les prochaines fois, je pourrais peut-être programmer des groupes qui ont plus de notoriété, comme Warlocks, qui a un succès international.
Complètement. Dans la plus petite, sur la plus petite scène. Ouais, bien sûr.
C'était un grand moment du festival, hein.
Ah, en tout cas. C'était incroyable.
Quels avantages ça représente d'être si près de Paris?
Bah, je pense qu'on attire un tiers de notre public de Paris. Donc oui, ça a des avantages. C'est un grand sujet, hein, parce qu'on a justement, on est hyper content d'accueillir une journée professionnelle le vendredi 9 septembre à l'ouverture du festival dans une autre ferme, dans une autre grange à 10 minutes de notre grange. Et là, en fait, il y a tous les réseaux, enfin, pas mal de réseaux de Normandie qui viennent, même la Fédélima aussi, donc qui est la Fédération des musiques actuelles de France, qui vient de Nantes exprès pour causer d'un sujet qui correspond un peu à ta question, qui est comment faire vivre les musiques actuelles quand on est coincé entre des pôles urbains. Donc, ce qui est complètement notre cas. Donc là, on est vraiment entre Rouen et Paris. Et comment arriver à faire vivre les musiques actuelles là-dedans, quoi. Et donc c'est un vaste sujet qui sera donc débattu le vendredi 9 le long de la journée. Et donc bref, la question, c'était: est-ce que Paris est un avantage? Oui, c'est sûr.
Y compris pour les groupes là. Bon, les Warlocks, ils sont américains, mais il y a beaucoup de groupes évidemment qui sont à Paris.
Oui, et puis il y a des groupes qui sont à Paris, puis on n'est pas loin des aéroports pour aller chercher les groupes quand on est sur un run.
Ça aussi, ouais.
Moi, je vois, avec les Youssef Friends, on a joué à Tours pour le festival Terre du Son. Et quand tu dois aller chercher Dirty Phonics et ramener Dirty Phonics à 4h du matin en run, j'ai une petite pensée pour Lucas de Péniche qui avait cette mission-là ce soir-là, quand nous on jouait. Il devait, après leur concert de Dirty Phonics à 2h du mat, les emmener à Charles de Gaulle, alors que t'es à Tours, quoi. C'est pas la même que quand t'es chez nous, quoi. Tu vois, nous on est à 1h10, lui il y a quelques heures de plus, quoi.
Je te propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale avec Tess Parks, et puis je te laisse là encore nous en dire quelques mots.
Tess, on l'a rencontré en 2014. On l'a rencontré en 2014 avec les Youssef Strange, où on a enregistré notre premier EP à Londres avec Stanley Belton et Black Market Karma. Et il s'avère qu'il était très copain avec Tess Parks. On savait pas. En fait, il me dit: ouais, ce soir, je vais voir un concert. C'est une copine qui joue. Ah ouais, carrément. Vous voulez venir avec nous? Avec moi? Bah ouais, bien sûr. C'est qui? C'est Tess Parks. Oh, ok. Et bah, grave. Du coup, on y est allé. Et puis, on l'a rencontré. On a passé pas mal de temps ensemble. Elle est venue aussi en France. On s'est beaucoup vu. Beaucoup. On s'est vu quelques fois à Paris. On a même joué avec elle au Paris Psychfest. On a joué des morceaux à elle à la Cigale en 2017. Et bref, donc on a un lien. Et puis ça faisait un moment qu'elle voulait venir au festival. Et puis bah là, avec le nouvel album, c'était l'occasion. Donc donc ça, c'est très, on va dire, l'aspect personnel. Et après, en musique, c'est moi, j'aime beaucoup ses albums. Il y a quelque chose de, c'est une voix très très suave, très et très grave. Et alors que c'est un tout petit bout de jeune femme brune avec des grands yeux et qui, quand elle arrive sur scène, tu dis mais qu'est-ce qu'elle va faire, quoi? Et elle est toute petite et elle arrive et elle sort cette voix incroyable et tu fais waouh, c'est assez fantastique. Et puis quand t'as le groupe qui suit derrière, c'est super. C'était un peu sa faiblesse avant, au début du groupe, c'est que le groupe avait du mal à suivre. Et après, il y a eu Anton Newcombe qui est arrivé des Brian Johnson Massacre, qui a produit un album avec elle, donc Tess Parks et Anton Newcombe, ils ont fait une tournée ensemble. Ça a vachement rodé les choses. Le live était super. Moi, j'avais vu à la Maroquinerie à l'époque, c'était incroyable. Donc toujours très psyché dans la pop. Influence Velvet Underground et tout. Et puis là, je trouve qu'elle s'est émancipée de ça, de Anton Newcombe, et elle a trouvé son propre truc. Et je trouve ça vraiment super. Son album, son dernier album est vraiment top.
Takes me to
C'était Tess Parks, le titre Happy Birthday Forever. Tess Parks, on la retrouve quel jour sur le festival Rock in the Barn?
Ce sera le vendredi soir, dans la grange.
Alors c'est un festival à ses débuts qui répondait à une attente d'un public plutôt lycéen, tu me dis si je dis des bêtises.
Non, c'est ça.
Tu cibles sur quel public désormais avec Rock in the Barn? Quelle tranche d'âge?
Eh ben, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de lycéens encore.
Ouais.
on en a toujours un petit peu. Je sais qu'en 2020, on en a eu quelques-uns. En 2019 aussi. J'espère qu'on en aura un peu cette année. Mais voilà, non, évidemment, on tape sur un public assez éclectique, hein, qui va de 20 à 60 ans, hein. Ouais, ouais, les vieux briscards de Venus in Fuzz qui sont.
Oui, je pensais à eux parce que si on a parlé de Paris tout à l'heure, la proximité d'Evreux, elle doit aussi apporter du public.
Bien sûr, oui, complètement.
Parce que, il y a une nébuleuse rock indé à Evreux.
Ouais, complètement.
Qui va faire trois quarts d'heure de voiture sans problème pour avoir un festival comme celui-ci.
Oui. Donc ça c'est assez large. Puis j'aime bien dans les locaux, on invite les gens du hameau de Bionval, d'autour. On fait des réductions aussi pour les habitants de Vexin-sur-Epte. Ils ont 10 euros en moins sur leur ticket. Voilà. Et donc c'est important. Il y a quelques agriculteurs qui viennent parce que l'agriculteur de la ferme Christian en invite quelques-uns. Donc c'est bien. On essaie quand même de mêler un peu les publics, c'est chouette.
Il est perçu comment le festival, du coup
Localement, c'est toujours très divisé. Il y en a qui adhèrent, qui trouvent qu'il y a un vrai intérêt, qui trouvent ça chouette, d'autres qui trouvent ça aberrant, et d'autres qui trouvent ça aberrant de plus qu'on leur pique des subventions. Voilà, c'est toujours très compliqué. Localement, il y a toujours des divisions, mais il y a quand même des gens qui soutiennent, bien sûr. Des gens qui sont très ravis de venir au festival, ouais, bien sûr.
Alors, proposer une date hors festival, on parlait d'Evreux tout à l'heure, dans une salle comme le Cube, par exemple, apporte quoi?
Ça permet d'intégrer Rock in the Barn dans le spectre
dans un territoire
de.
Plus large.
Ouais, c'est ça, dans un territoire plus large, dans un territoire comme le département de l'Eure. De pouvoir jouer sur la place forte du département qui est Évreux, c'est toujours bien. Et puis le Cube, enfin le club en tout cas, c'est un super lieu, quoi.
C'est un super lieu.
Il faut investir.
Il y a
le deck, c'est toute cette terrasse extérieure en bois qui est super. Et puis il y a Fanny, la nouvelle programmatrice, qui est super, qui nous a vraiment dit, c'est carte blanche. Moi, je veux que je veux que ce soit Rock in the Barn. Je veux limite qu'il y ait des poules sur la terrasse, quoi. Et elle m'a dit, vous ramenez de la paille. On a ramené des ballots de paille, des trucs. Il fallait que ce soit un peu crade, que ce soit. Et ça lui a plu. L'idée lui a plu. On a ramené notre déco, quoi. Et ça a bien fonctionné comme ça.
Bien fonctionné. L'ambiance était très sympa et les groupes étaient très bons.
Ouais. Golden Orchestra de Austin, super. Super, super groupe.
Et ouais. Je te propose qu'on aille à Rouen avec un groupe à l'énergie très communicative. Il s'appelle We Hate You, Please Die. Le titre, c'est Can't Wait to Be Fine. Mmh.
second chance, second wind. Oh no, the test of feeling fine.
I took some pills to fill the lines. And now from all to
Naomi is a train to realize. All of problem on this world.
Raise the
rock viscéral des excellents Rouennais de We Hate You, Please Die, emmené par Raphaël Balzari. Il y a beaucoup de très bons groupes issus de la scène dite locale, donc Normandie haute et basse. Quel regard tu portes sur la scène normande ? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est en plein essor ?
En plein essor, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a toujours... Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis dedans, j'ai l'impression qu'elle a toujours été en essor. Mais oui, il y a des groupes un peu tête de gondole, hein, on en parlait hors antenne, mais un groupe comme Mankins, par exemple, qu'on a pu faire en 2020 sur Rock in the Barn, c'est sûr, il y a pas moi de pour avoir vu les avoir vus plusieurs fois sur scène là récemment, je trouve qu'en France il y a pas grand monde qui arrive à faire ce qu'ils font sur scène, quoi, genre. Donc oui, Mankins, oui, To Please Die, évidemment. Là, il y a Dyke Rap qui va ouvrir le festival cette année.
Ils sont rouennais aussi.
Ils sont rouennais aussi. Les Métro Verlaine d'Evreux. Et il fut un temps où quand prenait vraiment le dessus, l'époque, la grande époque des Concrete Knives, où il y a eu Granville, où il y a eu Clockwork of the Moon. Il y a eu tous ces groupes-là, Jésus-Christ Fashion Barbe, tout ça. Et là, ça moindrit un petit peu, j'ai l'impression. Et que Rouen a pris, enfin, Rouen et la Haute, on va dire, a repris un petit peu le dessus, effectivement. Mais non, il y a les Agamemnon qui sont fantastiques aussi, puis ils sont là depuis longtemps. Et je sais pas quel regard je porte sur cette scène. Je la trouve présente, déjà très présente et très. Présente en Normandie, mais surtout nationalement, voire même à l'international. Un groupe comme Unschooling, c'est un des groupes qui s'exporte le plus. Enfin, genre, les Anglais sont complètement fans de Unschooling. Malheureusement, ils étaient au Green Man. Là, ils sont quand même programmés au Green Man, le meilleur festival du monde, élu par le New York Times et la BBC. Malheureusement, ils se sont fait refuser l'accès en Angleterre parce qu'ils n'avaient pas déclaré leur matos. Donc c'est triste, mais c'est un groupe qui s'exporte, qui joue plus, qui a vocation de jouer plus à l'étranger qu'en France. En France, enfin, tu vois ce groupe Unschooling, c'est presque de la musique savante. Enfin, tu vois sur scène, genre,
c'est très des matrock pour ceux qui connaissent.
C'est très matrock, très, enfin, t'as des crampes au cerveau, quoi. Mais c'est fantastique, vraiment. Et c'est une scène aussi, oui, qui s'exporte énormément. Je vois Cerveau qui a signé chez First Club à Londres
et qui avait joué à Rock in the Barn.
Qui avait joué aussi à Rock in the Barn. Je vois donc Mankins là qui part au Canada. Nous, les Youssef, on part en Angleterre et aux États-Unis pendant un mois et demi là en octobre. Donc il se passe des trucs intéressants quand même par chez nous.
Et alors la programmation est ouverte aux musiques du monde. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est le terme qui est en usage. Comment expliques-tu qu'on retrouve de plus en plus les musiques des autres mondes dans les festivals rock depuis quelques années? Il y a Taxi Kebab, enfin il y a d'autres couleurs qui sont amenées au festival.
Ouais, bien sûr. Derrière Il Dream, ça a été un coup de cœur pour moi que j'ai découvert sur FIP. J'ai découvert comme ça et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça, et je me suis mis à Shazamer comme beaucoup de gens et donc j'ai vraiment digué, comme on dit, plusieurs morceaux, plusieurs albums et plusieurs EP, et puis je me suis dit bon alors attends, faut que je cherche d'où est-ce que ça sort et tout, et puis en fait j'ai vu que c'était il y avait un booker français avec qui on avait déjà travaillé en plus, donc qui s'occupe de Altin Goon ou de Tao, et ça s'est vite goupillé, on va dire, et le coup de cœur était de mise pour moi, et je voyais ça tout à fait dans la grange au festival. Ouais.
Et ça amène un autre public par rapport au public rock plus classique.
Je sais pas si ça amène un autre public. Ça
amène un autre regard.
Ça amène un autre regard. Ça
enrichit,
c'est sûr,
le regard.
Et ça, ouais, complètement. Et c'est ça apporte une autre couleur à la programmation qui est bienvenue, et je crois que les gens ont besoin de ça. Enfin ça, ouais. Le public en a besoin, ça leur plaît. Et c'est un bon. En tout cas, c'est un bon coup de cœur cette année à faire découvrir. Ouais.
Et dans ce cas, je vous propose d'écouter Derya Yildirim et groupe Simizek. Le morceau s'appelle Oh Oi et Mine. Et juste après, ce sera Taxi Kebab, El Michi. Je ne sais pas comment.
Ah oui, celui-là, il est dur à prononcer.
Très, très dur. On va les écouter, ce sera plus simple.
Bye.
Vous êtes dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif. Vous venez d'entendre à suivre. Derrière Yildirim et groupe Simzek, ils seront donc le samedi 10 septembre au Festival Rock in the Barn, et Taxi Kebab à l'instant, qui sera le vendredi 9 sur le site du festival, Martin. Alors, tout fonctionne ensemble. Tes fonctions de musicien au sein du groupe You Set Strange t'amènent quelle particularité en tant que programmateur de festival? Tu avais déclaré, s'il n'y avait pas le festival, on n'en serait peut-être pas là avec le groupe. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu le groupe, vous n'en seriez peut-être pas là avec le festival?
Oui, c'est fort possible. Oui, les deux avancent ensemble. Oui, on a le festival a beaucoup évolué avec le groupe sur les premières années, enfin sur 2014, 2015, 2016, beaucoup. Et après, ça a plus pris, chacun a plus pris son chemin. Je parle en termes de programmation et. Mais sinon, le groupe est toujours impliqué dans le festival. Mathieu, il assure les petits déj cette année. Hector, il est sur la technique. Mon frère Elliot est sur la régie du site. Donc sur l'accueil des partenaires, etc. Donc il y a une vraie, volonté de mêler le groupe avec le festival, bien sûr.
Et il y a des rencontres qui sont faites. Je pense notamment au Métro Verlaine. J'ai eu la chance aussi d'avoir Axel des Métro Verlaine au mois de juin à l'émission, qui avait rencontré le producteur de leur premier album, Charles Rowell, qui faisait partie de Crocodiles, au Festival Rock in the Barn. Est-ce que tu as beaucoup d'exemples de ce type-là, de musiciens qui ont collaboré, de groupes différents qui ont collaboré ensemble parce qu'ils se sont retrouvés
à Rock in the Barn? Alors là, sur le comme ça, non. Alors oui, il y a Black Market Karma qu'on a fait jouer en 2014. Et qui, à l'époque, à la fin de leur concert, on est allé les voir en disant, mais est-ce que, enfin, un peu après la fin, quand même. Mais on est allé les voir en leur disant, mais est-ce que ça te dirait, Stan, de produire notre EP et qu'on vienne à Londres chez toi enregistrer? Et puis, et ça s'est fait comme ça, ouais. Donc, la rencontre entre le producteur et le groupe s'est faite sur le festival en 2014. Et après, sur la suite, s'il y a d'autres rencontres qui se sont faites, il me semble que Unschooling ont transformé l'essai de signature chez le tourneur vedette suite à leur concert sur les cailloux à Rock in the Barn. Et sinon, j'ai pas encore trop de souvenirs de d'autres rencontres qui auraient pu ou alors je ne les connais pas.
Mais alors tu le sais pas, c'est
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Et ça peut être encore mieux.
Je te propose d'écouter un extrait du deuxième album long format des Hébreux ici à Metro Verlaine, s'appelle Life is a Riot, et ils seront à Rock in the Barn
le vendredi
9. Ouais. 9 septembre.
En ouverture dans la grange, ouais.
venez d'entendre à l'instant le groupe hébreuicien Les Métro Verlaine, extrait de leur deuxième album Funeral Party. Ça s'appelait Life is a Riot. La crise sanitaire a changé la manière d'enregistrer. Ça, tu pourrais y répondre en tant que musicien. Elle a laissé quelle trace sur la fréquentation dans les festivals et dans les salles?
Bah écoute, nous en 2020, on a réussi à être le seul festival de musique actuelle en, debout masqué en 2020. J'ai dit deux fois 2020, ce qui fait trois. Écoute, on a réussi, ouais, on a réussi ça. Donc ça, c'était un bon tour de force. On, du coup, beaucoup de gens se sont, comme je disais hors antenne, beaucoup de gens se sont un peu vengés sur leur été et ont vraiment été, on n'a pas du tout été avares en termes de consommation de bière et de restauration. Donc nous, ça a été assez bénéfique pour nous en 2020. Et après, par contre, effectivement, j'ai l'impression que ça a changé les habitudes des gens. Là, après le retour à la normale, le gros problème, c'est que les gens n'achètent plus du tout de prévente, quoi, et qu'ils attendent vraiment le dernier moment pour venir. Et donc, c'est assez stressant comme situation
ouais,
à vivre.
En tant que directeur de festival.
Exactement. Donc voilà. Mais c'est partout pareil. Sauf sur les gros mastodontes qui sont Rock en Seine.
Ah oui, forcément.
Voilà, ou là, ou Beauregard, où là, il n'y a pas de problème. Mais sur les petits moyens festivals, c'est plus compliqué, ouais, j'ai l'impression. Il y a des moyens. Alors, les micro-festivals comme nous s'en sortent à peu près toujours, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Mais les moyens ont pris cher, ouais, cet été. Les moyens qui ont vraiment pris cher, les moyens festivals.
Qu'est-ce qui a changé pour les festivals en 13 ans et qui aura eu un impact sur Rock in the Barn? L'économie des festivals, elle a évolué de quelle manière?
J'en sais rien parce que nous, localement, on a tellement eu de péripéties déjà.
Oui,
qu'en fait, je crois qu'on n'a pas le luxe de se payer cette question. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a été viré de la ferme de Grandil par la Fondation Monet en 2016. Ils nous ont viré à grands coups de pied au cul. Du coup, in extremis, c'est-à-dire que 3 mois avant le festival, on n'avait pas de lieu. Il a fallu qu'on trouve un autre lieu. Donc on partait sur un festival à proximité de Vernon où on avait beaucoup de lycéens. C'était notre base principale, c'était le lycée. Il y avait ce truc aussi de la carte région où il y avait la région prenait en charge une partie du billet. Et là c'était il y a le mot qui se passait vraiment dans le lycée où tout le monde prenait son billet pour le festival. Donc on est passé à ça, à un public du coup plus éloigné, enfin un public vraiment de mordus de Vernonnais qui viennent malgré tout. Mais c'est quand même beaucoup plus dur. Les lycéens ne viennent plus parce que ils venaient à pied.
Moyen de locomotion.
Et oui voilà, ils venaient à pied. Alors maintenant, il y a des bus, tu vois, il y a toujours moyen de venir. Mais il y a aussi l'évolution à l'époque où on a monté Rock in the Barn, les lycéens écoutaient du rock, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou ce qui est beaucoup moins le cas.
Ouais.
C'est qu'on est peut-être à 5% de lycéens qui écoutent du rock, peut-être 10, allez grand max. Et donc, on est sur autre chose. Donc là, on est sur un public plus averti, ou qui vient des grandes villes, qui arrive à Vernon, et qui prend la navette, et qui arrive au festival. On a même un bus navette qui vient directement de Paris aussi. Et après, il y a des gens qui viennent du département et ailleurs, qui viennent avec leur caisse, et puis qui dorment sur place, au camping. Donc, je ne sais pas si on a, ouais, comme je te disais, le luxe de se poser cette question au niveau de l'évolution des publics, parce qu'on a eu donc ce truc en plein milieu qui a été l'expulsion de notre festival de la ferme de Giverny, plus il y a eu le post-attentat, où ça a été très compliqué pour nous à gérer en 2016. Il y a eu beaucoup de restrictions autour de ça. Et après, donc 2017, on trouve un nouveau lieu qui n'était pas du tout aux normes et qu'on a carrément eu pas une interdiction, mais on a eu un avis défavorable de la commission de sécurité. On a quand même maintenu le festival. Donc on s'est concentré là-dessus. Et puis après 2020, Covid. Donc voilà
c'est
comment.
C'est vrai qu'il y a quelques déconvenues, un festival qui a résisté à quelques déconvenues.
Ouais, on a eu à chaque fois un truc imprévu chaque année, ouais.
Et c'est un festival qui serait amené à grossir dans les années qui viennent, pour toi, ou tu...
Non, je pense pas. Non, on reste sur cette formule-là, 1200 par soir, grand max.
C'est la jauge idéale.
Ah ouais, voire 1000 par soir, c'est bien, quoi. Ouais, c'est bien, c'est la bonne jauge. Je me vois pas faire plus gros, je ne nous vois pas faire plus gros, parce que c'est...
On
rentre dans autre chose, quoi.
Ouais.
Non, c'est bien comme ça.
Encore quelques petites questions avant de rendre l'antenne. Qui s'est occupé du graphisme de l'affiche?
C'est Jeanne Pal. Jeanne Pal, qui est une artiste havraise, qui fait tout un travail autour du surf et autour de la nature, l'imaginaire océanique. Et voilà, elle fait un super travail. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour quand j'ai découvert et je me suis dit que ce serait bien que ce soit elle qui poursuive la. Enfin, qu'il fasse la suite des visuels, puisqu'on a eu plein, plein d'illustrateurs et là, c'est tombé sur elle.
On va se quitter dans quelques minutes avec un de tes grands coups de cœur. Elle s'appelle Cassandra Jenkins. Je te laisse, pour fermer cette émission, nous en dire quelques mots.
Bah ouais, Cassandra Jenkins, c'est une musicienne de Brooklyn qui fait de la folk assez pop, très douce, qui a sorti là donc là un nouvel album et qui là le morceau que tu vas mettre, Michelangelo, c'est vraiment un coup de cœur. Et en fait, elle a fait beaucoup de premières parties avec Andy Schauf ou avec Kevin Morby, qui sont des artistes que c'est vraiment mes préférés, quoi. Et en ce moment, c'est ce que j'écoute énormément. Et donc, elle a sorti ce nouvel album qui s'appelle An Overview to Phenomenal Nature. Et donc, c'est une espèce de voyage autour de la nature avec beaucoup de voix, beaucoup d'échos, beaucoup de choses assez expérimentales. Et en même temps, il y a ces morceaux très pop qui reviennent, qui sont, pour moi, il y a beaucoup de morceaux qui sont des singles, quoi, des tubes. Et voilà, c'est un gros coup de cœur pour moi et je suis vraiment très, très heureux de l'avoir cette année au festival. Il y a le Coconut Festival qui est le lendemain, qui l'a fait jouer la veille. Et après, il y a nous, quoi, et c'est tout. En France.
Ben, je te remercie, Martin. On retrouve toutes les informations sur le festival sur le www.rockinthebarn.com. Donc ce sera, je le rappelle, le vendredi 9 septembre et le samedi 10 septembre de cette année à la ferme Bionval à Vexin-sur-Epte. Pour les annonces, il y aura le vernissage de l'exposition le jeudi 15 septembre à 19h lors de l'apéro Cube au Cube, bien sûr spécial rentrée, exposition de la photographe Charlotte Romer. Donc, exposition qui sera ouverte évidemment tous les soirs de concert. Je te remercie, Martin. Je te dis à bientôt. Nous, on se retrouve évidemment dans 15 jours à 20h sur les ondes de Principe Actif. On se quitte avec Cassandra Jenkins. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, merci.
Merci, Martin.
I'm a three-legged dog working with what I got and part of me will always be looking for what I lost. There's a fly around my head waiting for the day I drop dead. My DNA looks pretty strange. See it. You play the